libre, c'est parti, roulez, brouillez, Olivier, le mug a parlé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est pour le grand jeu, je vous mettrai une fiche quelque part en haut de l'écran. Bref, Olivier, nouveau bilan, 20e bilan d'une saison fleuve en 2021, et une saison qui ne manque pas de rebondissements.
Oui, salut Damien, salut tout le monde. En effet, 20e course, le bilan du Grand Prix du Qatar, on s'attendait pas à le faire, hein, parce que c'était pas prévu, tout simplement, au calendrier.
Ah non, en début de saison, non.
Voilà. Donc, bon, une petite surprise du chapeau Covid, on va l'appeler comme ça, qui est apparu en cours de saison. Et, alors bon, on va se le dire d'emblée, Damien, franchement, c'était moins pire que prévu. C'est pas français, mais on comprend.
Bah voilà. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quoi s'en tenir. C'est un circuit qui a été créé pour la moto, qui marche plutôt apparemment bien pour les motards. Tous ceux qui apprécient le MotoGP pourront nous le confirmer. Mais apparemment, c'est plutôt apprécié quand même. C'est un circuit qui avait une particularité aussi, qui a été étudié pour être justement diffusé aux heures à laquelle était diffusé pour nous, avoir une course de nuit. C'est, je crois, le premier circuit permanent de nuit, premier circuit de nuit qui avait eu lieu. Oui. Indépendamment évidemment de ce qui se fait en NASCAR et tout ça, mais c'est le premier qui avait été réfléchi comme ça, je crois, puisque le premier Grand Prix de nuit qu'il y avait eu en Formule 1, c'était Singapour, certes. Bref, bon, on s'en mêle et on s'embête, on s'en fout, c'est pas grave.
Un peu, quoi.
On met l'affiche du Grand Prix tout de suite, le circuit du Losail, justement. Alors, on a donc 16 virages, un circuit extrêmement rapide, vous avez pu le constater durant tout le week-end, avec des pressions particulières sur les pneus, des vibreurs assez agressifs. On l'a vu en qualification, on l'a vu durant la course également ce dimanche. Et surtout, Olivier, ben, ce qu'il fallait se dire, c'est qu'il fallait vraiment que ça marche. Parce que certes, on l'a vu aujourd'hui. On le verra pas en 2022, mais à partir de 2023, on va le revoir, et pour 10 ans. Donc il fallait que ça se passe bien.
Oui, alors attention, on rappelle que le Qatar a signé pour 10 ans, pas le circuit. Donc oui. Sait-on jamais, hein, on pourrait nous sortir un tracé du chapeau pondu en 6 mois, comme dans un autre pays pas très loin, je sais plus lequel c'est.
Oh bah c'est, on va y aller dans 15 jours, donc on pourra savoir petit peu, hein, d'ici là. Évidemment, ouais, pourquoi pas, mais bon...
Ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se prendre 10 ans de ce tracé-là, qui sait. Donc, il valait mieux que ça fonctionne. Ça a fonctionné en termes de pilotage, c'est vrai que c'était plutôt intéressant. On s'attendait à quelque chose de plutôt embêtant. Finalement, il y avait plus moyen de dépasser qu'on ne le pensait, clairement. Cette course a eu un intérêt, plusieurs même, on va évidemment décortiquer tout ça, mais oui, globalement, moi je m'attendais à pire, c'est clair, et on s'attendait tous un peu à pire quand même.
On était vraiment pas forcément confiants, surtout qu'on est sur un circuit qu'on découvre dans une fin de saison, circuit un peu particulier évidemment, beaucoup de virages en appui, donc on sait, la plus grosse crainte c'était de se dire est-ce que les voitures pourront se suivre. Et il se trouve qu'elles ont réussi quand même relativement bien à se suivre, de manière à ce que justement le DRS qui n'était pas sur une droite extrêmement longue puisse quand même être performant. On a pu avoir un peu d'animation durant cette course, Olivier, c'est ça quand même qu'on doit retenir aussi. Et justement, tu évoquais la possibilité que le Qatar puisse produire un nouveau circuit pour le Grand Prix du Qatar qui aura lieu à partir de 2023. Certes, on avait donc uniquement cette installation qui était prévue pour cette année, puisque c'est la seule qui est prête à accueillir la Formule 1. Mais je me dis, peut-être tant mieux aussi, cette répétition générale nous montre que c'est possible et nous montre qu'il n'y a pas forcément besoin de se compliquer la vie pour absolument avoir un circuit qui sorte de terre pour dans 2 ans. Au moins, on sait que c'est faisable, on sait que c'est possible et ça, tant mieux.
Voilà, maintenant, on n'aura pas forcément des aussi belles courses. Si tant est qu'elle ait été belle, j'exagère peut-être un peu.
Alors, mais en je t'arrête cas, tout de suite. Avec je, de t'arrête, je t'arrête tout de suite. Le résultat était très très bien. Premier, deuxième, on s'en fout. C'est toujours les mêmes depuis le début de la saison. Mais il faut quand même le dire, l'éléphant dans le couloir est là, mince. La troisième place de Fernando Alonso. Vous allez en bouffer durant tout ce bilan, je vous préviens. Soyez prêts. Et voilà, écoute, parlons de la roulée Victory Lane, Olivier. Hein, voilà.
Bon, même si voilà, la roulée Victory Lane avec un certain... Lewis Hamilton, hein, je voulais dire, bien sûr. Même si Fernand est là, il sera là partout hein, dans ce bilan. Donc si vous ne l'aimez pas, ne regardez pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Après, si vous n'aimez pas Fernando Alonso, que faites-vous sur cette chaîne ? Que faites-vous sur YouTube finalement, en fait, si vous n'aimez pas Fernando Alonso ?
Oui, voilà, c'est ça. Que faites-vous dans ce monde ? Oui, bah, je vais au bout du délire, Damien. Lewis Hamilton, donc, vainqueur de ce Grand Prix, 102e victoire en Formule 1. Là, 102e pole aussi. Ça tombe plutôt bien. 7e victoire de la saison. Donc potentiellement, il peut rattraper Max Verstappen à 9. On en reparlera peut-être un peu. Et donc, 30e piste sur laquelle il remporte un Grand Prix sur 35 qu'il a visité dans sa carrière de F1. C'est propre.
C'est oui, sa démonstration évidemment du côté dominateur et puis victorieux qu'a pu avoir Lewis Hamilton, et ça va confirmer, on va en parler durant le fait marquant, mais il y a un point particulier, c'est Toto Wolff qui a beaucoup répété cette description, ce terme-là, durant ses interviews du week-end, mais le lion a été réveillé. Lewis Hamilton est donc de nouveau, comme on l'avait évoqué pour le bilan du Grand Prix du Brésil, quand Hamilton est alors, une bête blessée, même si le terme, on comprend un peu l'image que ça représente. Mais voilà, c'est
Oui,
quelqu'un
c'est
qui.
une métaphore.
Voilà, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est mis un petit peu en difficulté, justement, va avoir de la ressource, va réagir, va ne pas se laisser faire finalement, et va démontrer à tout le monde que bah non, il peut le faire. Et on a eu le Grand Prix du Brésil où il est remonté de manière impressionnante, mais là, ce Grand Prix-là, à aucun moment tu l'as senti en une quelconque difficulté. On est dans une victoire de domination totale. Il se trouve que les circonstances de ce samedi l'ont un petit peu aidé, on va en parler. Malgré tout. Il a fait aucun doute qu'au bout de trois virages, c'était fini.
Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'on avait très très vite compris effectivement que Hamilton allait s'imposer. Il était, je crois, il avait 20 ou 21 points, je ne sais plus, le soir des qualifs au Brésil, de la qualif du vendredi, avant d'être disqualifié.
Oh, c'est une bonne question, je me souviens plus là.
C'était 20 ou 21, peu importe. Il est disqualifié, il est dernier sur la grille de la course sprint. J'avoue, je plaide coupable. Je me suis dit, bon, là,
C'est fini.
on va arrêter le délire, les carottes sont cuites. Mais non, 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 il remonte et on connaît la suite, il gagne au Brésil, il gagne au Qatar et le suspense est quand même assez fort relancé. Je pense que là, mathématiquement parlant, tout reste possible. On va parler évidemment des scénarios. Bref, on est déjà un petit peu dans le fait marquant, Damien, mais on a beaucoup de choses à dire.
Passons sur les 10, Olivier, si tu le veux bien. Hamilton, Verstappen, on s'en fout. Verstappen, donc. Enfin, Alonso, troisième sur le podium de ce Grand Prix.
Ah oui.
15 points. 15 points pour Fernando Alonso. 10 points également pour Esteban Ocon, qui termine en cinquième position de ce Grand Prix. Donc, justement, qui permet à Alpine de marquer 25 points contre 0 pour les gros nuls d'AlphaTauri.
Alors, l'objectivité est partie. C'est terminé.
J'en fais trop.
On dirait moi lors de la première victoire de Russell en 2022.
Ben, je m'en moque, mais j'assume totalement. Vous connaissez un petit peu, et puis je suis
Mais
passé par
rappelle-moi un
des.
peu, attends Damien, avant le fait marquant, Alonso il termine quatrième?
Troisième de ce Grand Prix, Fernando Alonso troisième. Vous avez eu les 10 peut-être aussi longuement à l'écran que pour tous les autres bilans en cumulé depuis le début de la saison. Bon allez Olivier, on arrête les blagues, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais on va tout de suite évidemment passer au fait marquant. Le fait marquant, Olivier, de ce Grand Prix, c'est évidemment la troisième place de Fernando Alonso. Oui, je change le conducteur. Non, bon, allez, trêve de plaisanterie, évidemment. Nous allons continuer à discuter de cette lutte pour le titre qui. Alors, ce week-end a passé un cap. On avait beaucoup d'éléments en piste, on avait beaucoup d'éléments de discussion par interview interposée. Là, on est allé un peu plus loin parce que, en fait, Olivier, j'aimerais, pour ce bilan du Grand Prix du Qatar, qu'on remonte un peu en arrière, qu'on remonte évidemment au Grand Prix du Brésil parce que, il s'est passé quand même quelque chose sur la fin de Grand Prix lors d'une tentative de
Oui.
dépassement d'Hamilton qui a fait beaucoup causer durant toute la semaine.
On est allé plus loin parce qu'on a parlé de lécher les culs ou non, ça n'a rien à voir, c'est pas.
Ouais, d'accord, c'est parti, on y va. Oui, bah écoute, il se trouve que
Roue
Christian
libre.
Horner a un langage, oui, un langage particulièrement en roue libre lors des conférences de presse. On va pas vous remettre l'ensemble et on va pas vous répéter ce que Olivier a dit, mais
Non.
malgré tout, il y a un point quand même qu'il faut qu'on retienne dans tout ça, c'est que on a vu la course dimanche, on en a parlé durant le bilan, bilan qu'on a tourné avant une déclaration importante de Michael Masi, qui est le directeur de course, mais donc. Lors de la première tentative de dépassement de Lewis Hamilton, pardon, sur Max Verstappen a donc largement élargi, fait que les deux pilotes sont sortis de la piste, a réussi à protéger sa position, puis s'est fait quand même dépasser trois tours après. À l'époque, il n'y a pas eu d'enquête qui a été soulevée, ouverte durant le Grand Prix, et il se trouve que le lendemain du Grand Prix, Michael Masi nous a concocté l'une de ses phrases assez exceptionnelles.
Oui, et n'oublions pas que le propos de Red Bull hein, durant la course, Let them race, qui a peut-être influencé la non-enquête du coup des commissaires.
Oui, enfin après, attention, on a eu, nous, l'information de Red Bull et ce qu'ils ont déclaré quand c'était déclaré à la télé. Mercedes aussi a posé des questions également. Il ne faut pas non plus s'imaginer que.
Non, non,
Non,
parce que
non, 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 c'est que. Non.
je dis ça objectivement. Objectivement, ça leur a peut-être laissé penser que oui, effectivement, c'était une bagarre musclée. sans conséquence, et donc allons-y, laissons-les courir.
Je vais aller donc, plus loin que ça. Passé... Olivier, je vais aller plus loin que ça, en fait, je suis désolé, mais je pense que malheureusement, ça n'a pas été réfléchi de manière aussi forte que ça, c'est qu'on a malheureusement un exemple de plus que c'est pas... Il y a un problème de niveau, en fait, au niveau de la direction de course depuis le décès de Charlie Whiting, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de choses très étranges qui se passent en direction de course, non pas qu'il puisse y avoir un complot, des décisions pour aider qui que ce soit, non, c'est juste que tu as une perte de continuité, une perte de constance, une perte de cohérence, en fait, dans la manière dont l'ensemble des décisions peuvent être prises.
Oui, et ça se prolonge d'ailleurs, ça s'est largement prolongé lors de ce week-end du Qatar, on y vient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive aux images, pour reprendre la chronologie, Damien, les images de la caméra embarquée de Verstappen, qui donc sont apportées comme nouvelles preuves, nouvel élément par Mercedes, puisqu'elles n'ont pas été prises en compte par les commissaires durant la course. Donc là, on va quand même faire une distinction. Je suis désolé, mais puisque tu as fait un petit peu le mélange, Damien, je retape sur le clou. Distinction entre Red Bull qui veut... c'est pas un appel qu'ils font, c'est comment on appelle ça ? Une révision, donc une demande de révision de ce qui s'est produit. Après Silverstone, on rappelle quand même que Red Bull a inventé purement et simplement une preuve, là où Mercedes est allé chercher ce qui existait. Quand même une distinction à faire.
Il y a ce point-là, bien entendu, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a la volonté de la part de Mercedes de tenter de réouvrir, justement, enfin d'ouvrir, de créer une enquête. Oui. Il y avait une différence qu'il y avait entre Red Bull et Mercedes, dans ce cas-là, à Silverstone, comme tu l'évoquais, c'était de considérer que la manière dont avait été jugé l'événement n'avait pas été à la hauteur de ce que ça avait représenté. Donc, ce qui est une révision de sanction. Là, pour Mercedes, c'était la volonté de dire « Non, non, ça méritait bel et bien une sanction. » Et donc, contrairement à changer la sentence, là, il y avait carrément la volonté de changer la manière dont la direction de course a vu l'incident durant le Grand Prix, qui avait considéré que ça ne nécessitait pas d'enquête, donc pas de sanction selon eux. Mmh. Et comme tu l'as évoqué, il y avait cette caméra embarquée évidemment de Verstappen qui servait de nouvelle preuve, mais il y a aussi la déclaration de Michael Masi qui, lorsque cette preuve a été révélée, a déclaré « Ah ben en fait, finalement, on aurait fallu le pénaliser. » À quel moment tu dis ça, quoi ? Enfin,
Oui, il l'a dit, et au final, non, pourquoi alors, on n'a pas le pourquoi, d'ailleurs, vraiment, de la non-réouverture d'une enquête. Ce qui est sûr, c'est que la FIA a préféré se couvrir, enfin, les commissaires, on préférait se couvrir et ne pas tout simplement se désavouer. Finalement, c'est ça qui se passe. Là c'est où ça me pose problème.
Vas-y, alors, moi non. Vas-y. Moi non. Vas-y, dis-moi pourquoi ça te pose problème. Je te dirai pourquoi moi ça ne me pose pas.
Là où ça me pose problème, c'est que quand je vois la scène, quand je vois le résultat final de cette course, évidemment, je n'ai pas envie qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une pénalité après coup, que Verstappen perde des points parce que Bottas aurait été devant, parce qu'il aurait pris 5 secondes. J'ai pas envie de ça. Et donc, je suis content que ça n'ait pas eu lieu, clairement. Là où ça me dérange, c'est qu'on se retrouve dans une situation où vous avez plusieurs pilotes, notamment Charles Leclerc, qui déclare « Si Verstappen n'est pas pénalisé, je revois ma manière d'aborder un dépassement. » Pas de pénalité, et donc, finalement, on encourage les pilotes à refaire la même chose. Sauf que, Damien, on nous dit toujours les pénalités, elles ne tiennent pas compte des conséquences d'un éventuel accrochage. Oui, mais attention, ça joue énormément. Imagine que Verstappen fasse exactement la même chose, que Hamilton ne veuille pas céder, c'est-à-dire ne tourne pas plus large lui aussi. Les deux se rendent dedans. Je ne sais pas qui abandonne ou pas, j'en sais rien, peu importe. Mais il y a des conséquences. Est-ce que tu crois une seule seconde qu'il n'y a pas d'enquête s'il y a des conséquences ? Je n'y crois pas, non mais pas un dixième de seconde.
Ça, on le dit à chaque fois, Olivier. Quand ils disent qu'ils font fi des conséquences dans leurs décisions, ils se mentent à eux-mêmes dans tous les cas. Et à partir du principe...
Totalement faux.
Ah, oui, mais c'est faux, mais c'est normal. En fait, la manière même de juger... Forcément, tu vas juger à la manière dont les conséquences vont être effectuées. Parce que tu as beaucoup de situations qui se passent en piste qui pourraient dégénérer, mais comme elles ne dégénèrent pas, il n'y a pas de situation qui se passe. Oui. Au dépendamment de moments où il y a des éléments qui ont été sanctionnables mais qui n'ont pas été, là, je te parle vraiment de situations qui pourraient être étudiées, mais qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas de pépin. Mm-hmm. Je vais juste te prendre l'exemple qui s'est passé ce dimanche. Mick Schumacher revient en piste après une sortie au virage 15, je crois, et passe juste devant Alonso au dernier moment, qui a l'expérience et le métier de pouvoir faire attention à ce qui s'est passé. On est donc plusieurs heures après la fin de la course, à aucun moment on a signifié quoi que ce soit à Mick Schumacher, alors que sa manœuvre était particulièrement dangereuse. Mais parce que comme ils ne sont pas touchés, il ne s'est rien passé. Et donc justement, c'est bien okay. la démonstration claire et nette que les conséquences entraînent quelque chose. Les conséquences entraînent oui. ne serait-ce qu'une enquête. Parce que, voilà, tous ces éléments-là, je suis d'accord. Et donc oui, ça ne me dérange pas la décision de la FIA de ne pas réviser la sanction. Non pas que ça doive signifier que ce qui s'est passé lors du Grand Prix du Brésil n'appelle pas à une sanction. C'est de se dire, ok, lors du Grand Prix du Brésil, on a probablement merdé dans la manière d'appréhender la situation. Par contre, on ne va pas changer le résultat d'une course plus d'une semaine après sur un élément sportif. Si c'est un élément technique, je ne dis pas. On révèle une infraction technique, c'est autre chose. Là, la voiture n'était pas conforme, il n'y a pas de problème. Là, on est sur un élément sportif, on a entériné la situation, c'est clair, c'est net, c'est réglé.
Mais je l'ai dit, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de sanction après coup. Et vraiment, je n'aurais pas du tout apprécié que Verstappen... soit pénalisé comme ça une semaine après, ça n'avait aucun sens, donc là-dessus, tant mieux. Oui. Ce qui me dérange, c'est qu'on en vient donc clairement, et ce que tu viens de dire, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, sur le plan technique, le règlement, il est noir ou blanc. C'est bon, c'est pas bon, on pénalise ou pas. Sur le plan sportif, c'est un règlement qui tient compte d'une décision humaine.
Oui, parce qu'en même temps, c'est
la. Et ce sera toujours le cas.
Mais c'est la manière dont le règlement sportif est réalisé aussi. Attention, hein, c'est un peu.
Voilà. Mais donc, si voilà. le règlement reste tel quel, il faut maintenant qu'ils assument que les décisions sont humaines et sont influencées par les conséquences, et qu'on aille au bout de ce raisonnement-là et qu'on se dise nous sommes arbitres, nous sommes humains, nous jugeons, et donc les décisions peuvent évoluer selon qui décide. À ce moment-là, si on dit clairement ça, pas de problème. J'ai
également...
plus aucun souci alors.
Et également, on peut dire aussi à tout le monde, et parce que la déclaration de Charles Leclerc, je suis désolé, mais elle est, je suis désolé, je vais te le dire comme je le pense, d'une stupidité sans nom. Charles Leclerc ne l'est pas, hein, mais la déclaration de Charles Leclerc, c'est-à-dire, si Verstappen oui. n'est pas sanctionné, je vais me comporter plus durement, je suis désolé, mais c'est, qu'est-ce que, enfin, quand t'es un enfant, enfin, je suis désolé, mais c'est pas acceptable.
C'est ça.
C'est pas acceptable. C'est une manière de faire pression aussi, c'est un élément de chantage, sachant qu'en plus, il est même pas sanctionné de manière directe par les éléments qui sont liés, enfin, je trouve ça complètement bizarre. C'est totalement absurde, et même je pense que c'est hors de propos, sanctionnable ou pas, j'en sais rien, au fond c'est pas mon boulot de faire ça, mais comme tu le disais, c'était d'assumer la part humaine dans la manière dont tu vas juger les sanctions, et certains sports le font de manière beaucoup plus intelligente que d'autres, à tel point de te dire, on va prendre une décision, elle pourra vous sembler injuste, elle pourra vous sembler inadaptée, sauf que c'est notre décision, on est comme ça, on a raison, vous avez l'opportunité dans les règles qui seront définies pour faire appel de cette sanction, d'accord ? À différents moments, selon la manière dont c'est pris en compte, tout ce que tu veux, pas de souci. Mais si on dit que, on dit que, on est comme ça. Enfin, il faut, à un moment donné, arrêter, enfin, siffler la fin de la récré, en fait, finalement. Parce que c'est le cas, l'expression d'Horner qui dit qu'en gros, on n'est pas dans un jardin d'enfants, oui, mais en même temps, ils l'entretiennent tous.
Tous. Absolument tous. À commencer par les commissaires, de toute façon.
Et à commencer par Horner aussi, hein, d'ailleurs.
C'est là que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, c'est que. Ok, maintenant on prend ce genre de décision, on assume comme ça, et oui, évidemment, les autres protagonistes aussi. Hein. Mais on doit assumer les choses et dire, ok, sur le plan technique, c'est noir ou c'est blanc, on va pénaliser ou pas, point barre. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, on a vu la disqualification d'Hamilton, l'amende de Verstappen, l'amende aussi d'Hamilton également au Brésil. Tout ça, c'est de l'application pure et dure d'un règlement à la lettre. Ok. Il est ce qu'il est, on en prend une règle technique, d'accord.
Dans le cas d'Hamilton, c'est une règle sécurité. Et en fait, il y a deux points sur lesquels. Je suis désolé, mais
on n'est pas d'accord sur celle-là.
Mais oui, parce qu'il y a deux points sur lesquels il y a une intransigeance à avoir. Pour moi, le pilote, à partir du moment où il quitte son stand jusqu'au moment où il arrête sa voiture, harnais attaché. Point.
Ok.
Harnais attaché, donc, casque, machin. Comment ?
L'émotion de la victoire, poubelle, quoi.
Bah, l'émotion de la victoire, tu l'as après derrière en dehors, je m'en fous. Enfin, après derrière, qu'est-ce que tu veux que je te
dise ? Mais donc poubelle. Dans ce cas-ci, poubelle.
Mais poubelle, il y a un halo de sécurité, il y a un bordel autour.
Oui, mais donc en fait, c'est aussi l'ironie. Ils ne peuvent plus prendre le mât, quoi, avec le drapeau. Ça a été interdit. Mais tu peux prendre un drapeau. Mais en fait, non, tu ne peux pas prendre un drapeau parce que tu ne peux pas le montrer correctement si tu ne desserres pas un peu ton harnais. Donc alors qu'ils interdisent le drapeau aussi. Et puis comme ça, la fête est finie, quoi.
Je te cache pas que pour moi, je pensais que le drapeau était interdit. Donc.
Ouais, si, il est autorisé, mais il doit juste le tenir en main. Mais bon, on va arriver à l'interdire aussi, et comme ça, bah, plus d'émotion, plus rien, quoi.
Ah, tu l'as en dehors, j'en sais rien. Tu fais des donuts. Ah, mais non, ces donuts, c'est interdit aussi. Écoute, oui, mais bon, c'est comme
à
ça.
À quel moment c'est un problème qu'il l'ait desserré ?
Parce que je te rappelle juste qu'à la fin d'un Grand Prix, Verstappen, Vettel s'est retrouvé sur trois roues parce qu'une voiture lui est rentrée dedans, et que si lui roule doucement et que d'autres n'ont pas envie d'être aussi lent que lui et qu'il lui rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais dans ce cas-ci, Hamilton a fait attention, il savait ce qu'il faisait, il n'y a pas eu de conséquences.
Mais met en place, on entrouvre la porte sur une règle de sécurité, et à partir de là, tout le monde va aller un peu plus loin.
Ouais, mais qu'on sanctionne ceux qui vont plus loin, alors. Mais le gars qui fait ce qu'il a fait, je suis désolé, quel que soit le pilote, je vois pas où est le problème. Ouais, ce qui me dérange là-dedans, c'est que tu hop, application à la lettre, et puis...
Sécurité. La sécurité, ouais. Et le technique, c'est intransigeance noir ou blanc. C'est 80 km/h dans les stands, c'est à 80,1, c'est mort. Tu définis ta marge de manœuvre, tu définis ta marge d'acceptabilité.
Ok, mais il n'y a pas d'émotion dans le 80,1, tu vois.
Mais tant pis, c'est comme ça. Et après, derrière...
Dans le jeu porte un drapeau, il y a de l'émotion.
Donc, pour ton desserrage de harnais, voilà. Tu peux définir une valeur qui sera d'acceptabilité dans le fait de légèrement...
On va desserrer de 2 cm mais pas de 4, quoi, d'accord.
Bah, tu peux définir un cran, j'en sais rien, je sais pas. Tu dégraves pas, tu desserres un peu, enfin voilà, tu peux trouver une solution. Faut que ce soit clair.
Bah, officiellement, ils peuvent pas y toucher, donc voilà.
Donc, à partir de là, voilà, maintenant, après, derrière, que cette situation-là au Brésil pour Hamilton puisse entraîner une révision de ce règlement-là pour autoriser, après, derrière, une manifestation d'émotion, dont acte, pas de problème, mais pour l'instant, c'est pas possible.
Ah bah non, ils sont tous montés au créneau, Jean Todt, même, il est allé de son mot pour dire, voilà pourquoi on l'a fait, la sécurité avant tout, machin, ok,
mais,
d'accord.
Mais le GPDA peut aussi prendre la main et puis dire, bon, écoutez, ok, très bien, c'est comme ça, c'était appliqué comme ça, maintenant, est-ce qu'on peut étudier, peut-être, un moyen de, voilà.
Ouais, et on rappelle que le GPDA a d'ailleurs un excellent nouveau coprésident en la personne de George Russell.
Revenons par contre, Olivier, si tu le veux bien, au Grand Prix du Qatar. En fait, on parle beaucoup de pénalité parce que lors de ce Grand Prix du Qatar, on a eu droit à un exemple justement d'inconstance de sanctions et de mon point de vue aussi d'une problématique de sécurité. Même si elle s'est faite sur un plan sportif particulier, c'est la séance de qualification, c'est la Q3, deuxième tentative pour tout le monde. Alors, corrige-moi si je me trompe, il y avait Hamilton qui était devant Gasly, c'est sûr, je crois qu'il y avait un deuxième pilote qui était devant lui en Q3, mais je ne suis plus certain de qui c'était. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'Hamilton était devant, c'est certain. Il y avait Gasly. Gasly, donc dans le virage 15, sort un petit peu trop large et donc va dans le vibreur à l'extérieur et donc qui explose son aileron avant et également découpe son pneu avant droit. Si je dis bien pas de bêtises, c'est ça. Donc il se trouve que là, virage 15 à la sortie, tu as des débris partout sur la piste et Gasly est donc évidemment au ralenti, virage 15 puis 16 et puis il avance et il n'arrive pas à rentrer au stand, il s'arrête donc sur la ligne droite du départ. On voit de multiples reprises d'indications danger sur la piste avec le drapeau jaune sur les éléments de la télévision, puis d'un coup tout va bien, piste claire, puis renouveau drapeau jaune, puis après derrière plus rien qui apparaît. Et là, il y a des pilotes qui passent. Et des pilotes qui passent plus ou moins rapidement. Il y en a un qui a respecté la sécurité et sans même qu'un drapeau soit agité, c'est Fernando Alonso.
Évidemment.
Écoute, c'est pour ça qu'il méritait son podium aujourd'hui. Sinon, tous les autres, à des degrés divers, n'ont pas forcément respecté précisément ce qui s'est passé, puisque tous sont passés soit à fond, soit en ralentissant trop tardivement pour que on puisse pas considérer que ce soit une mise en danger quand même de la situation. Drapeau jaune, double drapeau jaune, bref, il n'y a que 2 sanctionnés et 3 appelés, alors que tu en avais potentiellement jusqu'à 6
qui auraient pu être sanctionnés. En fait, oui, le problème est là, parce que les 2 sanctionnés, ils sont sanctionnés, là je reviens à ta vision de façon assez logique, donc règlement, application.
Tout à fait.
Bottas, Verstappen, ils ont leur compte de place de pénalité. Carlos Sainz, donc, ils expliquent qu'en fait, il a admis qu'il n'avait pas vu les drapeaux jaunes, mais il a ralenti de lui-même parce qu'il a vu Gasly. Donc il aurait suffisamment ralenti pour ne pas être pénalisé.
Alors, d'autres ont analysé ça de manière un petit peu plus, taquine, et en fait se sont rendu compte que Sainz est rentré trop fort dans le dernier virage et donc a légèrement glissé, ce qui fait qu'en fait il a ralenti de manière indirecte. Et donc, écoute.
Mais toujours est-il que les données de la télémétrie montrent qu'il a ralenti, en fait.
Oui, c'est ça.
Tu vois ?
Et les données de la télémétrie montrent qu'il a ralenti, et après, derrière, il a eu toute la nuit pour préparer sa défense, puisque rappelons-nous, évidemment, qu'après les qualifications, on convoque tout le monde le lendemain, moins de 4 heures avant le début de la course, sachant que théoriquement, on est quand même censé savoir la grille au moins 3-4 heures avant, sauf cas exceptionnel, évidemment.
On rappelle aussi, Damien, qu'il aura fallu 3 heures, au moins 2 pour les premiers, pour déterminer qui avait fauté ou pas. Tout en, prolonge la phrase, en oubliant visiblement certains pilotes.
Déjà, c'est ça. Le premier point, c'est ça. C'est à part. Enfin, je vais le dire de manière en fait
Open.
très, très différente finalement. Quand vous avez. Alors, c'est un point où je pense qu'en qualification, il faut trouver moyen de peut-être changer des éléments. Mais quand vous avez déjà, pour commencer, premier point déjà, à quel moment vous n'avez plus de drapeau jaune dans la situation telle qu'elle a été présentée? Vous avez
Alors.
à l'extérieur du virage 15 des débris partout,
Oui.
et vous avez une voiture qui est au ralenti sur la piste. Elle n'est peut-être pas dans la trajectoire, mais elle est sur la piste, et la voiture n'est pas au ralenti maîtrisé, elle est au ralenti endommagé.
Je me pose une question, Damien. Est-ce que l'affichage sur nos écrans correspond à ce qui se passe sur le circuit, sur le tracé lui-même?
Alors c'est lié au faisceau qui sert aux affichages des panneaux et à ce qu'il y a dans les voitures.
Donc il se passe la même chose, on est
Donc
d'accord.
l'électronique est liée en fait.
Donc le fait que ça apparaisse, que ça disparaisse, que ça réapparaisse, que ça redisparaisse, c'était la même chose pour tout le monde.
Théoriquement, c'est comme ça.
Donc ils ont merdé dans les grandes largeurs. Et là, pour le coup, c'est Michael Masi lui-même qui plus est. Il
T'as
est
le droit de
directeur de
prendre
course.
autorité sur tout le monde, et puis eux, ils n'ont pas le signal principal d'F1 TV, hein. Ils ont tout, hein.
Ils ont tout.
Donc, ils sont au courant quand même qu'il y a un pépin qui s'est passé. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, la question est le... Comment dire drapeau jaune simple, double drapeau jaune, machin. Enfin, après, derrière, oui, ok, au moment où Bottas passe, il y a un drapeau jaune simple. Au moment où Verstappen passe, c'est un double drapeau jaune. Donc, c'est ça qui explique la différence de sanction entre les deux. Là, le problème que je me pose dans ces cas-là, c'est que déjà, il y a un souci dans la manière d'appréhender les incidents en qualification, surtout en fin de séance,
Ah
où
ouais.
certains pilotes, déjà, donc, pour commencer, Verstappen n'a absolument pas cherché à ralentir une seule seconde, mais d'autres ont tenté des trucs un petit peu de Trafalgar et tout, je suis désolé, mais quand t'as des drapeaux jaunes comme ça dans une situation pareille, enfin, faut pas
Non.
lever de quelques pourcents dans un micro-secteur pour faire semblant que machin. Non, 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 tentative terminée. Point.
Oui, c'est ça. Alors, le règlement actuel dit bien que pour le simple drapeau jaune, le pilote peut poursuivre son tour mais doit ralentir. Double drapeau jaune, c'est tentative complètement avortée. Le pilote doit vraiment, pas s'arrêter, mais en tout cas arrêter vraiment d'être dans un tour rapide, définitivement,
Voilà,
et complètement ralentir.
double drapeau jaune, tu es censé pouvoir arrêter de manière instantanée ou quasi
Oui.
instantanée ton véhicule.
C'est ça. Et ouais, Verstappen les a pas vus, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a admis ne pas les avoir vus.
Bah, c'est que, après, je veux bien le croire, tu es dans une tentative là où tu es au max. T'es au max absolu, et au-delà de la blague qu'on peut faire sur son prénom. Mais dans les qualifications, c'est le moment où t'es concentration totale sur ton tour. T'es même pas en train de chercher à droite, à gauche, derrière, devant, sur le côté. Non, t'es à fond sur ton tour. T'es 1 minute 20 quasiment en apnée, vraiment pour aller sortir le maximum de ta caisse, de toi, de tes pneus, de tout ce que tu peux. Tu dois donc avoir des informations qui ne sont absolument pas discutables. Ça doit être automatique. Et on en revient au premier problème. Quand tu as des informations qui clignotent vert, jaune, rouge, bleu ou sur le côté, forcément, ça ne marche pas. Tu dois être beaucoup plus réactif dans ces cas-là. Et on en vient à se poser la question de savoir est-ce que la FIA n'aurait pas carrément tenté, en fait, de mettre du vert pour que la qualif ne soit pas trop ennuyée et qu'on puisse faire tenter tout le monde un tour en dépit de toute possibilité de pouvoir se comporter de manière intelligente en cas de pépin.
Donc la FIA devait se sanctionner elle-même et non pas les pilotes?
Ah bah oui.
En tout cas, ils ont.
Non, mais on va
Moi, je
plus
vais
loin que
résumer.
ça. Enfin, c'est pour se dire, c'est que on parle de la lutte pour le titre. En fait, on disait, on a toujours envie de se dire, on espère qu'il n'y aura pas de pépin fiabilité. Ça concerne deux équipes, tout ça, bon, très bien. Mais ça, c'est le sport en tant que tel. Mais surtout, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas eu de réelles conséquences au championnat entre les deux actuellement. Mais
Non.
quand tu vois le niveau de la FIA aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un pépin, en fait, du point de vue réglementaire?
Ça fait un petit peu peur pour les deux Grands Prix qui arrivent parce que on a l'impression que ces gens-là pourraient décider du championnat. Des championnats même. Donc on va espérer vraiment que non, que ça se présente pas. Mais on va pas se mentir, il y a un risque. Parce que là, clairement dit, ils ont merdé quoi, dans les grandes largeurs, de nouveau. Et ça fait deux fois en 7 jours. Alors je sais que les équipes sont fatiguées.
Bah eux aussi, ils ont...
Chez eux
Bah
aussi, il y a
oui,
des gens
voilà.
fatigués. Bon, ça a des conséquences quand même assez énormes. Il va falloir faire quelque chose à un moment, quoi. Parce que bon, je ne sais pas si c'est une question de compétence, si c'est une question de règlement qu'il faut modifier. si c'est une question de constance de qui décide. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire pour que ça bouge, parce que là, en l'espace de 8 jours, pouf.
Il y a probablement besoin, c'était une question qu'on s'était posée dans le Racing Café, mais au fond c'est vrai, il y a peut-être probablement besoin, surtout avec la nécessité de prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'avant, avec des voitures qui vont encore vraiment très très vite, avec tous les dangers que ça peut représenter, il y a probablement peut-être besoin de encore plus professionnaliser le collège des commissaires, véritablement.
Oui. Bien sûr.
Et de peut-être restreindre le nombre de personnes qui sont liées au collège des commissaires aujourd'hui,
ouais,
de manière à ce qu'on évite et on limite toute difficulté. Après, l'intervention d'un pilote commissaire pour être un consultant et non pas un décisionnaire, mais apporter un élément de consulte, pourquoi pas,
oui,
très
mais,
bien.
Oui, mais qui décide, Damien, aujourd'hui? Je vais d'ailleurs,
mais
allez, tu sais
pas
quoi,
les pilotes ne décident pas.
Mais non, mais justement, mais
il serait important peut-être de signifier dans les décisions comment est-ce que le consultant pilote a pu influencer la prise de décision ou t'expliquer.
Attention,
que
il a, en cas de désaccord dans les commissaires, il a une voix, hein, donc potentiellement, il
oui
peut influencer une décision. Aujourd'hui, et tu sais quoi, allez, c'est la mascotte quand même de cette chaîne. Jacques X, en
ah
interview
oui
ce week-end sur la RTBF, du haut de ses 76 ans,
bientôt 77,
quand même,
hein, le 1er janvier,
ouais, a quand même tenu à rappeler que aujourd'hui, ce genre de décision, tout ce qui s'est passé au Brésil, au Qatar, peu importe, sont prises à la large, très large majorité par des gens qui n'ont jamais mis leurs fesses dans une voiture de course. C'est un... J'enfonce une porte ouverte, mais il y a quand même un sérieux problème de ce point de vue. Je suis désolé, il y a un vrai problème.
On est... Il y a souvent cette critique qui peut venir de la manière dont les arbitres peuvent se comporter vis-à-vis des différents sportifs en fonction de si ou non ils ont pratiqué ces sports-là à plus ou moins haut niveau.
Oui.
C'est toujours une question qu'on se pose. Certains sports, en fait, peuvent être jugés de manière beaucoup plus simple sans forcément avoir pratiqué, connaissance des règles précises. Mais dès que vous avez une interprétation humaine de la manière dont le règlement est appliqué, vous devez avoir une sensibilité, une connexion avec la manière dont ça peut se passer. Et l'un des exemples revient à ce qu'on a par rapport à Verstappen et à Hamilton. Il est impossible, enfin, on n'a pas le droit de pousser un pilote en dehors de la piste, on n'a pas le droit d'empêcher, enfin, de bloquer finalement un pilote qui veut faire une tentative de dépassement de manière illicite. Sauf que durant tout ce Grand Prix du Qatar, on a eu l'occasion de voir à de multiples reprises des pilotes qui changent de direction pendant le freinage, ou au niveau de la zone de freinage, ou vraiment au tout dernier moment, peut-être un petit peu juste, peut-être un petit peu limite. Et c'est un des points qu'on doit évoquer parce que, pourtant, ni toi ni moi n'avons mis nos fesses de manière très sérieuse dans une voiture de course. Mais quand tu as
non,
un différentiel.
Non, mais on prend pas de décision, nous.
Mais quand t'as un, oui, déjà pour commencer. Puis quand tu as un différentiel de vitesse aussi important que ce que peut entraîner le DRS,
oui,
un changement de trajectoire un peu au dernier moment peut avoir vraiment des conséquences terribles. Là où, avant, on se mettait des coups de roue parce que la différence de vitesse, déjà, ils allaient moins vite, pour commencer. Et puis, la différence de vitesse entre les deux était vraiment pas aussi importante. Donc, on pouvait peut-être se permettre plus facilement ce qu'aujourd'hui. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, peut être très dangereux, oui,
bah oui,
c'est sûr. Bien sûr que oui. Mais voilà, il y a plusieurs problèmes derrière tout ça. Qu'on souligne, disons-le quand même, et là, c'est l'instant autopromo, mais on le souligne aussi saison après saison. De toute façon, cette inconstance, c'est vraiment cette inconstance et ce. Parfois, désolé, il faut dire les choses comme elles sont, ce manque de professionnalisme, tout simplement.
Oui.
De gens qui peuvent, dans ce cas-ci, dans le cas d'une saison comme 2021, ils pourraient, je ne l'espère vraiment pas du tout, mais décider des titres. Et donc, il y a un vrai gros problème quand même.
Alors par contre, petit disclaimer important, ne vous imaginez pas quand une décision est prise qu'elle va à l'encontre de votre préféré ou que c'est un complot pour essayer, pour aider les autres ou quoi que ce soit. Non, je pense que non.
Non, et de ce point de vue-là, on a vu assez clairement que les deux clans qui se jouent les titres pouvaient être sanctionnés, ont été sanctionnés en l'espace de quelques jours.
Oui.
Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus.
Non, non, non. En fait, c'est simple. La manière, elle est extrêmement simple de ce point de vue-là. Quand vous affirmez que la FIA décide de sanctionner tel ou tel pilote, imaginons, Imaginons, la FIA décide de sanctionner Olivier de roue libre, et donc elle est contre Évidemment. Olivier de roue libre. Donc moi, j'affirme que la FIA, elle fait tout pour empêcher Olivier de roue libre de gagner la saison. Eh ben, désolé, mais c'est moi, t'as moi qui affirme ce truc-là, de prouver que c'est vrai. Parce que sinon,
oui.
C'est trop facile. C'est pas parce que moi je te dis que c'est pas le voilà. cas que c'est à moi de te prouver que c'est pas le cas. Non, non, non. C'est à
et
toi.
Et on est bien d'accord que personne ne pourra jamais prouver qu'ils avantagent l'un ou l'autre, ou une équipe ou l'autre.
Quelques fois où des choses comme ça ont pu se passer, on a fini par le savoir quand même, déjà.
Oui, et c'est arrivé quand même, c'est vrai.
C'est arrivé, c'est pas parce que c'est arrivé, déjà c'était d'autres personnes, d'autres époques, et c'est pas parce que c'est arrivé que ça va forcément arriver à chaque fois, premier point. Et deuxième point, faut apprendre à perdre pour savoir gagner.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Peut-être beaucoup de jeunes aussi qui doivent apprendre.
Non, non, c'est pas qu'une question de jeunesse, je te garantis que c'est pas une question d'âge, c'est parfois une question d'intelligence. Parce que des personnes très jeunes sont souvent très intelligentes et ont du recul, d'autres plus âgées ne le sont pas. Mm-hmm. Non, c'est juste que, voilà, simplement, on est en train d'évoquer un point qui est juste global, qui est général, qui est de se dire qu'au niveau de la FIA, il y a un vrai problème dans la manière dont on peut monter certains règlements sur le plan sportif ou technique, ou dans la manière dont on peut monter les sanctions. Parce que ça a un impact ensuite sur... D'un côté, l'intégrité, ou du moins la vision d'intégrité de ces personnes-là, et deuxièmement, ça a un impact sur les différents championnats. Jusqu'à présent, on ne s'en est pas rendu compte, mais là, ça pourrait avoir un réel impact et ça pourrait être gênant.
Ouais, je pense, pour terminer là-dessus, que voilà, moi, Michael Messi, je ne le connais pas et je n'ai même pas envie de le juger sur le plan personnel. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas, et il n'aura jamais, puisque déjà, il remplit moins de fonctions, mais il n'a pas l'aura d'un Charlie Whiting. Qui, soit dit en passant, était largement critiqué par moments aussi.
Il était critiqué et critiquable.
Et critiquable aussi. Donc, est-ce que Michael Messi fait forcément moins bien ? Est-ce que forcément, c'est pas la bonne personne à la bonne place ? Est-ce qu'il doit être remplacé ? Est-ce que ça ira mieux ? Je suis pas sûr. Je pense que ça manque surtout d'une ligne directrice globale, une cohérence, une constance et une connaissance, quelque part aussi, au-delà d'un règlement à appliquer, de ce que c'est d'être à la place des pilotes. Parce que je suis désolé, il y a un moment, ça entre en ligne de compte, et ça doit entrer en ligne de compte dans les décisions qui sont prises. Voilà.
Pour clôturer ce fait marquant, petit point sur la lutte pour les titres, nouvelle victoire de Lewis Hamilton, quand même, deuxième place de Max Verstappen, qui est bien remonté, hein, sacré départ quand même de Verstappen après la sanction justifiée, hein, on l'entend, qui s'est passé. Ce qu'on critique, c'est pas tant le fait qu'il ait été sanctionné, c'est plutôt ce qui a entraîné que la sanction ait lieu et que d'autres ne l'aient pas été. Mais lui, sa sanction était parfaitement justifiée. Hein.
Oui.
Donc ce qui fait qu'à la fin de ce Grand Prix, nous avons 8 points d'écart entre les deux pilotes. Olivier, petit tableau, juste pour clôturer ce film.
Allons-y.
Temps. Nous avons 3...
Allons-y, Alonso.
Ah oui. 3... Nous avons donc 3 cas de figure où Verstappen peut être titré dès le prochain Grand Prix en Arabie Saoudite. Olivier, lesquelles sont-elles ?
Je ne sais pas, mais je vais te dire ça tout de suite en regardant évidemment notre panneau.
Allez, 26 points d'écart. Il faut qu'il y ait 26 points d'écart pour que Verstappen soit titré. Puisque à partir du moment où il a 26 points, eh bien, même en cas d'égalité au score, il aurait plus de victoires. Évidemment, pour ceux qui se disent qu'il reste en cours de course et que si Hamilton gagne 2 courses, ils en sont à 9. Réfléchissez, on ne peut pas, dans le cas présent, se retrouver égalité de victoire si Verstappen a plus de points.
Voilà, exactement, puisque si Hamilton gagne, forcément, il y aura moins de points d'écart. Et donc, dans ce cas-là, le titre se jouera forcément à Abu Dhabi. Donc oui, il doit avoir 26 points au soir du Grand Prix de Jeddah pour être titré. C'est mathématique. C'est comme ça. Et donc, Damien, Verstappen peut être premier avec le meilleur tour, et Hamilton, dans ce cas-là, doit être 8e ou moins que 8e.
Forcément.
Continue.
Et si Verstappen gagne, mais ne fait pas le meilleur tour, si Hamilton veut conserver des chances, il doit faire mieux que 7e avec le meilleur tour, c'est-à-dire 6e. Hein. S'il est 7e avec le meilleur tour, ou moins avec la victoire de Verstappen, il est titré. Enfin, dernier cas de figure, si Verstappen termine 2e avec le meilleur tour, Hamilton doit marquer au minimum un point. S'il ne marque pas de point, c'est terminé. Et si Verstappen termine 3e avec le meilleur tour, qui est le meilleur résultat possible, ou moins que ça, pas de titre avant Abu Dhabi, il n'y aura pas assez d'écart entre les deux.
Et donc on ne l'a pas noté, mais s'il est 2e et qu'Hamilton n'inscrit pas de points, c'est bon aussi.
Ça compte bien. Non, non, c'est pas bon, puisqu'ils seront à égal 25 points.
Ah oui, juste.
Eh oui. Ah non, mais c'est des petites subtilités.
C'est précis.
Il y a des petites subtilités, évidemment. J'ai déjà fait toutes mes vérifications pour être certain. Donc, on est tout bon. Vous avez tous ces éléments-là donc, qui sont dans le tableau, qui étaient en récap, évidemment, de la fin de ce fait marquant, Olivier. Mais on va, évidemment, clôturer ici ce fait marquant pour parler de Fernando Alonso juste après. J'allais dire le fait marquant, Olivier, oui, parce que le fait marquant, c'est le podium, les top flops, Olivier, les top flops, évidemment, de ce week-end du Grand Prix du Qatar. On ne peut évidemment pas passer à côté. Fernando Alonso est de retour sur un podium. Ça fait quoi, 7 ans? Ça fait Grand Prix de Hongrie 2014.
C'est ça. Oui, déjà, ça faisait un moment, quand même.
Déjà, il y avait Hamilton sur le podium à l'époque.
Déjà, il y avait Hamilton sur le podium à l'époque. Autre podium, on a vu Hamilton et Alonso. Pré-podium, disons ça comme ça, c'était évidemment en Hongrie 2021. Puisqu'Alonso s'était un petit peu invité en bas du podium, en tout cas.
Oui.
Un peu beaucoup. Mais cette fois-ci, c'est un vrai, de vrai, de vrai, de vrai podium pour Fernando Alonso, troisième. En fait, je vais te lancer là-dessus, Damien, parce que bon, c'est ton moment. Mais... Bah oui, quand même. Non. Mais c'est un troisième amplement mérité sur cette course.
Oui, sur l'ensemble, même sur le week-end, je dirais, oui, au total, parce que on a déjà une séance de qualification où, avant les sanctions, il est dans cinquième position. Bottas et Verstappen sont sanctionnés, donc il démarre troisième, du côté positif de la piste, mine de rien. C'est important. Excellent départ d'Alonso qui... a réussi finalement, tant bien que mal, à faire sauter le bouchon Gasly, et donc se retrouve en fin du premier tour en deuxième position.
Tout en contenant l'assaut de Verstappen aussi.
Oui, mais justement, c'est que la deuxième position d'Alonso à la fin du premier tour, c'est ça qui lui permet d'être sur le podium, parce que l'écart va se creuser en fait de manière naturelle. L'AlphaTauri, qui a été très performante en qualification, puisque Gasly démarrait en première ligne, n'avait aucun rythme de course, puisque même Tsunoda avait plutôt pas trop mal géré sa qualification, et finalement, les deux terminent hors des points.
Les deux étaient à la rue en course.
Complètement. Ils sont rentrés au stand très très tôt avec leurs pneus tendres, justement, qu'ils n'ont pas réussi à faire tenir, contrairement à tout le monde. Et globalement, ça n'a pas vraiment marché du côté des deux voitures italiennes. Ce qui fait donc que Alonso a parfaitement bien profité de cette opportunité au début, a parfaitement mené son rythme et a tenté le coup d'une stratégie à un arrêt. Ça, tu le tentes que si t'es Alpine, tu vois, tu le tentes que si t'es dans une écurie.
Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Bottas en tête, évidemment, et puis les deux pilotes Williams qui avaient un peu plus de tours quand même sur leurs pneus, si je ne dis pas de bêtises, que ce qu'a eu Alonso en fin de course, qui a aussi bénéficié par voie indirecte de la crevaison de Latifi, justement, puisqu'il y a eu deux tours sous Virtual Safety Car qui ont peut-être permis aussi de contenir la remontée de Sergio Pérez.
Quand on voit à quel point Pérez remonte, je pense que heureusement qu'il y a eu cette virtual safety car. Je me suis dit, moi, quand je l'ai vu apparaître, que ça allait clairement aider Alonso et que, en principe, c'était bon grâce à ça.
Ah bah, j'étais devant ma télé, je peux te garantir que quand j'ai vu marquer virtual safety car, j'ai levé les bras, puis après, je me suis dit, attends, mais il y a peut-être un souci quand même.
C'est ça.
Oui, mais d'abord, j'ai levé les bras. Mais oui, ça fait plaisir parce que ça confirme quelque chose concernant Fernando Alonso, indépendamment d'Alpine. On parlera d'Alpine juste après, mais ça confirme un truc sur Alonso. C'est qu'après un temps d'adaptation qui a été un petit peu longuet, mais en même temps 2 ans sans Formule 1, sachant qu'il revient avec une philosophie de voiture et un moteur qu'il ne connaît pas, il a fallu s'adapter. Et finalement, dès qu'il a été adapté, ça a marché. Et indépendamment et avant ce résultat-là, malgré la victoire d'Esteban Ocon, il était devant le pilote français dans le top 10 depuis quasiment la mi-saison. Et puis sans avoir triché, en fait, finalement, sans avoir volé sa place, il était là. Et je trouve que ça permet de confirmer une saison où Alonso nous a rappelé qui était Alonso, en fait, tout simplement.
Oui, et c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié parce que, bon, voilà, la période McLaren-Honda était... très très compliqué, et donc forcément là on a retrouvé en 2021, c'est une confirmation, le vrai Fernando Alonso, reconfirmation là au Qatar, avec vraiment une démonstration, disons, de, j'allais dire, de jusqu'au boutisme, mais c'est aussi vraiment cette il y a une occasion, il la prend, quoi. Voilà.
T'as ça, t'as aussi la manière dont il se comporte dans l'équipe, justement, où il est très positif et il pousse tout le monde vers le haut, on
Ouais.
tente des choses aussi. Après, voilà, tu tentes ça dans la situation dans laquelle tu es Alpine, tu ne te bats pas pour le titre, tu te bats pour un résultat qui peut être intéressant, tu prends le risque. Il faut
Oui.
prendre ce risque, en fait, finalement. Tu prends le risque de crever au dernier tour, au dernier virage, voilà, t'en sais rien. De même qu'avec Ocon, hein, puisque Ocon termine quand même cinquième de la course, et grâce aussi à cet élément-là, à cette tentative d'un arrêt, où Ocon a dû résister, lui, à Stroll et aux deux Ferrari, quand même, en fin de Grand Prix. Donc c'est quand même pas trop mal sorti aussi. On a un Grand Prix qui permet de véritablement sauver, je pense, la saison d'Alpine, pardon, qui marque 25 points à 0 sur AlphaTauri. Ça faisait deux Grands Prix qu'ils étaient à égalité. On se disait justement que ça allait être complexe parce qu'on avait le sentiment que au moins Gasly était meilleur. Et ben finalement, il y a eu un Grand Prix sans pour AlphaTauri et Alpine a maximisé. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et ils ont parfaitement réussi leur coup.
Bah, ils sont, ouais, en fait, c'est le week-end parfait, c'est-à-dire le week-end où vous arrivez, vous êtes performant. En plus de ça, vous vraiment vous capitalisez là-dessus et vous empochez le maximum de points possible. Et dans le même temps, votre adversaire est un peu au tapis. Donc forcément, ça change complètement la donne pour la cinquième place du championnat. On peut être tenté de se dire que ça va être très compliqué pour AlphaTauri. Attention quand même. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une situation complètement opposée dans l'une des deux courses restantes.
C'est ça, c'est
Sait-on
voir
jamais?
après. Voilà, c'est voir la suite. Cette saison ne manque pas de rebondissements, évidemment. Mais voilà, c'est des grands prix comme ça aussi qui nous font rêver, qui participent aussi au plaisir qu'on peut ressentir avec de la Formule 1. Pourtant, on se bagarre pour la cinquième place du constructeur. Donc, on est quand même loin d'être dans des situations qui font rêver, mais c'est comme ça. Et donc, justement, ça fait plaisir de voir un Alonso retrouvé et de voir aussi toute cette équipe Alpine, puisque Ocon a fait comme Alonso au Grand Prix de Hongrie, c'est-à-dire qu'il est allé célébrer le podium avec Alonso, avec l'équipe en dessous. Il s'est retrouvé en retard dans la zone mixte, hein, d'ailleurs, à cause de ça, parce que justement, il est allé célébrer avec tout le monde. Donc, il y a un vrai état d'esprit qui est présent dans
Alors,
cette équipe, et tant mieux.
il était moins en mesure d'aider Alonso pour le podium que Alonso l'avait aidé pour la victoire en Hongrie.
Ouais, mais
C'était
attention!
plus compliqué, mais il a quand même, on a vu qu'il avait vraiment tout donné, hein,
Voilà,
franchement.
il a vraiment essayé, ça aurait pu compromettre très franchement sa fin de course.
Oui.
Maintenant, voilà, comme il a dit, c'est vrai, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe qu'en Hongrie de garder une voiture derrière soi, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est que le Grand Prix, enfin le circuit du Qatar, nous a permis plus de dépassements que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc franchement, d'avoir résisté aussi longtemps, c'est-à-dire qu'en gros, un ou deux virages de plus que ce qu'il pouvait tenter de résister, c'est déjà pas mal pour Esteban Ocon, et bravo, parce que
Oui, parce
justement,
que, allez, quand vous êtes dépassé par Perez et que vous êtes dans une Alpine, à quel moment vous essayez encore de vous battre pour aller leur chercher? Il l'a fait.
Ah, normalement, vous essayez pas. Hein. Mais
C'est
voilà,
ça.
donc très bien pour Alpine qui, donc, avec Alonso, repart avec le top du week-end, évidemment. Un flop donc pour AlphaTauri, bien entendu. On va pas forcément revenir sur ce qui s'est passé. Encore une fois, des belles qualifications avec un départ en première ligne pour Gasly grâce aux pénalités. C'est vrai, il y a une impression de difficulté peut-être du côté d'AlphaTauri. Mais surtout, c'est qu'on se rend bel et bien compte que il a manqué vraiment de constance. Il a manqué deux pilotes au niveau cette année, on l'a dit, on va le répéter une nouvelle fois. C'est ne pas faire injure à Tsunoda de dire qu'il n'était pas au niveau cette année, parce qu'il n'était pas
Oui.
prêt, mais parce qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Et ça
En
se
fait,
voit.
je vais me risquer un parallèle, mais il a manqué à AlphaTauri et la constance des deux pilotes et la constance de la voiture partout. C'est exactement ce qu'il manque à McLaren pour jouer la troisième place.
C'est l'autre flop un peu, hein, mais il continue depuis quelques Grands Prix. McLaren qui donc va s'en tirer avec seulement 2 points de ce Grand Prix, là où les deux Ferrari terminent l'une derrière l'autre. Encore une fois, hein, régularité, continuité. On a juste inversé les positions depuis quelques Grands Prix, puisque c'est Sainz devant Leclerc, mais ça s'arrêtera là.
Ouais.
Pour Ferrari qui peut repartir avec un petit point bonus, une petite mention positive, de même que Aston Martin, qui place ses deux voitures dans les points. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas senti les deux Aston Martin pouvant un peu se bagarrer, avec en plus Stroll qui s'est fait voir en début du Grand Prix en retenant un petit peu Bottas quand même.
Damien, question, mention négative, je la mélange, hein, ce que tu es en train de dire.
Vas-y, vas-y.
Pour la réalisation, que s'est-il passé avec Vettel en début de course?
Vettel, je crois qu'il y avait
Vettel,
même Ricciardo aussi qui avait un début
Ricardo.
de Grand Prix compliqué. On ne sait toujours pas. Hein. Ah oui, et puis on va pas aller, enfin, même si on devrait, mais c'est pas normal de devoir aller chercher ce qui s'est
C'est
passé.
ça.
Pour des différents pilotes, sachant qu'on peut te remontrer 5 ou 6 fois le départ d'un pilote qui s'est très bien passé. Sachant qu'en pilote qui s'est mal passé au départ, Valtteri Bottas, indépendamment de son abandon quand même.
C'est justement ce que j'allais ajouter, Damien. Je ne sais pas si c'est un petit flop ou une mention négative, mais un, le départ de Bottas. Alors, je pense que c'est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Totalement, il patine, il garde la trajectoire en plein milieu, il se fait déborder dans tous les sens, du coup. Enfin, c'est catastrophique, vraiment. Au final, mention négative aussi pour son équipe, qui le laisse clairement trop longtemps en piste, crevaison, dommage sur la voiture, et donc abandon, et donc, attention, ça peut avoir des conséquences. Là où on avait utilisé Bottas, c'était au Mexique pour aller chercher le point du meilleur tour, enfin le retirer à Verstappen.
Oui.
Ils n'ont pas pu le faire, là. Alors je pense qu'il aurait très bien pu servir exactement à la même chose. Verstappen aurait un point de moins aujourd'hui d'avance sur Hamilton, puisque Verstappen a eu le point du meilleur tour cette fois. Ça peut éventuellement avoir des conséquences, et donc c'est une erreur vraiment de l'équipe. Il va falloir, en fait... Là, on repart dans la lutte pour le titre, mais je le dis juste entre parenthèses, il va falloir qu'Hamilton aille chercher les points du meilleur tour. S'il veut le titre, à mon avis, ça va peut-être compter. Ça peut jouer, clairement. Mais donc, ça a des conséquences, tout ça, quand même. Donc, flop sur l'équipe, voilà, ils ont... Alors oui, une stratégie en arrêt, mais 33 tours sur les pneus de Bottas.
Alors attention, on va ventiler la responsabilité. Est-ce qu'on ne tente pas aussi une stratégie aussi... limite aussi risquée.
Parce qu'il loupe son départ.
Bien
sûr. Évidemment que oui, évidemment. Bien sûr, il faut changer la stratégie. S'il fait un super départ, qu'il se retrouve, deuxième, troisième, s'il fait un départ à la Verstappen, il n'a pas du tout la même stratégie de course. Hein. Ça me semble totalement évident.
Bien sûr que non. Et c'est là où on s'en sort. C'est là où tu te rends compte que finalement, il avait fait une belle qualif, certes, sanctionné évidemment suite à l'infraction au drapeau jaune, mais malgré tout une très belle qualif, bien meilleure que celle de Pérez, qui une fois de plus est un peu mis en difficulté sur l'exercice.
On inverse.
Ouais, mais sauf que bon, les points, ça, c'est le dimanche qu'on les marque.
C'est ça. Et donc on inverse par rapport à Bottas, tu vois.
Et même si samedi, en fin de qualification du côté de chez Pérez, c'était la soupe à la grimace, et ben on s'en sort pas si mal que ça, on aurait quasiment même pu obtenir le podium. Écoute,
Le problème de Mercedes.
Il faut un podium en trois courses pour que Pérez, je vous rappelle, on considère que sa saison soit réussie. C'est quasiment fait.
Il lui en faut encore un, effectivement. J'allais dire, le problème de Mercedes, c'est que là où Pérez, ça se passe pas très bien, et même là, en l'occurrence au Qatar, assez mal en qualif, il arrive à tirer les marrons du feu, vraiment, en course.
Toujours.
Il n'est pas sur le podium là, mais enfin, il arrive à marquer des points importants. Bottas, c'est un week-end sur deux, en fait, pour l'instant. Ça va, il est présent, il est à fond, il fait son job. On l'avait souligné au Brésil, souviens-toi, il a fait son taf. Au Mexique, c'était absence totale. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est absence totale. Alors oui, il y a eu cette crevaison, machin, tout ça, mais le départ, personne n'y peut rien, sauf lui. Toto s'énerve un peu à la radio.
Oui.
En mode, mon grand, bouge-toi, hein, parce que bon, on a besoin de points.
On n'a jamais autant entendu Toto Wolff à la radio que sur ces 5 derniers Grands Prix par rapport aux 5 dernières années quand même. Hein, donc.
C'est vrai. Et petit doigt me dit que ça risque de continuer sur les prochaines courses. Mais donc, Bottas est inconstant.
Là-dessus, excuse-moi Olivier, mais que du côté de chez Mercedes quand même, on a sur le plan sportif réussi de très très beaux résultats avec Lewis Hamilton, on est globalement dans une situation un peu inédite. Et on ressent de manière très très forte les effets de la pression. Ça ne veut pas dire que chez Red Bull ils le prennent mieux, hein, non. Mais ils ont une position un peu d'outsider par rapport à Mercedes, qui, même si Mercedes est derrière au classement pilote, reste quand même cette fois champion en titre. Donc forcément, tu vois, l'étiquette est positionnée, même si ça serait, enfin, je vais le dire comme ça, tel que je le pense, ça serait une absurdité et un échec incroyable que Red Bull ne gagne aucun des deux titres, pour pas dire les deux.
Ce serait un énorme échec, oui, bien sûr. Et pour Honda, on n'en parle même pas.
Voilà. Mais du côté de chez Mercedes, on est en train de subir des effets de pression. Et je pense qu'on est en train aussi de mettre une pression à quelqu'un qui s'en va, en fait, Valtteri Bottas. Ça joue peut-être aussi.
Oui, et donc que fallait-il faire, Damien? Je suis désolé.
Que fallait-il faire? Je sais pas. Je sais pas. Je pense
Bah,
qu'il
il
fallait
fallait
peut-être
changer
avoir
plus
genre.
tôt.
Ouais, genre, je reçois la voiture cette année, ouais.
Ouais, mais ça fait un an que je le dis, quoi. Et je suis désolé, il y a un an, quasiment pile d'ailleurs, que je le dis, je le clame haut et fort. Bottas, il était mentalement cuit à la fin de la saison 2020. On l'a plus ou moins fait repartir comme on pouvait pour 2021. Il est en train de peut-être faire perdre Mercedes, peut-être même qui sait Hamilton. Alors sur certains Grands Prix, et on va
Attention,
vraiment le
attention,
ressouligner.
attention, et oh,
Oui, mais.
attention. On peut pas non plus le jeter toute la responsabilité non plus.
Non.
Non,
Non, non,
non.
non. Mais je continue de penser que dans certaines situations, ouais, on aurait sans doute mieux fait de changer avant. C'est facile à dire un week-end où ça marche pas, et puis au Brésil, on a dit que ça avait très bien fonctionné, et puis peut-être que, d'accord, en Arabie Saoudite, on dira que c'est bien, Bottas a fait son taf. Oui, sauf que c'est inconstant.
Bah,
Des fois, il le fait très bien,
des
et des fois, il
courses.
n'est pas là du tout.
Des courses vraiment réussies de Bottas cette année, je peux compter la Turquie, je peux compter le Brésil où il a quand même fait du bon boulot.
Ouais.
En début de saison, est-ce qu'on peut considérer que le boulot, il a fait le job sur le plan comptable? Maintenant, il n'y avait pas l'opposition qu'il a maintenant avec Sergio Pérez, que Pérez était quand même plus loin à ce moment-là.
Ouais.
Et dans l'entre-deux, dans le milieu de saison, il a plus brillé par des errements que. Ou des situations difficiles que réellement par des grosses performances. Et pourtant, j'ai l'impression que l'année 2021 de Bottas est meilleure que 2020. Donc
Il a juste, oui, il a été très bon là où il peut être bon, c'est-à-dire le samedi.
oui, ça peut.
Globalement, il a été vraiment très très correct, hein, le samedi, plus que correct.
Il est au-dessus, c'est sûr. Il est au-dessus.
Mais le dimanche, pouf, voilà.
Et c'est là où
Bref.
ça compte, et c'est là où ça se voit, et on verra bien. Toutes les conclusions seront à tirer, évidemment, en fonction des résultats de cette fin de saison. Après, petit point sur Russell. Peut-être que Russell n'est pas dans la Mercedes déjà cette année parce que bah, le châssis était déjà travaillé et qu'ils ne savaient pas le faire rentrer dedans.
Oui, enfin, je pense pas que ça dépende que de ça, mais
Non, c'était juste une blague, mais.
voilà. De toute façon, Georges est grand par son talent. Nous pourrons le constater
Ouais, et
dans
puis
quelques mois.
pas tour chez George Russell, sinon après derrière, Olivier s'énerve tout rouge, rouge comme ton pull. je suis désolé. Est-ce qu'on a d'autres éléments à notifier sur cette top flop, Olivier, pour le coup? Je pense qu'on a été assez complet.
Oui, je pense que bah on n'a pas parlé de si oh non, on l'a dit tout à l'heure, pardon. Le
De quoi?
fameux incident Schumacher,
Oui, on l'a évoqué,
on
évidemment.
l'a évoqué.
On l'a évoqué concernant justement ce fait marquant un peu fleuve. Qui était un englobage un peu global sur la lutte pour le titre et évidemment les conséquences liées à la manière dont la FIA se comporte depuis quelques temps. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, vos tops, vos flops évidemment de ce Grand Prix. On se fera un plaisir de vous lire, mais Olivier, il est temps de passer évidemment à la note. La note, Olivier, de ce Grand Prix du Qatar, je propose donc un 14 sur 10. Évidemment, puisque.
Oh oui, comme ça, toi.
Il convient de célébrer Fernando Alonso, le Magnifico. El plan, monseigneur, el plan. Rentrer. Non, bref, non, non. Mais malgré tout, ce qui s'est passé avec Fernando Alonso, de mon point de vue, a fait rehausser un petit peu la note.
Oui.
Je sors un 3,5 entre, au niveau du spectacle, ça ne valait, je pense, pas autant. Et surtout un 3,5 au niveau stratégique, parce qu'avec l'usure de ses pneus, justement, cette particularité liée au risque de crevaison, ainsi que la découverte, en fait, que le DRS était très performant, qu'on avait la possibilité de pouvoir dépasser beaucoup plus facilement que ce qu'on pensait, mais que l'undercut n'était pas très efficace, il y a eu des intelligences, il y a eu des stratégies à proposer qui ont été faites. Par exemple, Red Bull a potentiellement peut-être paumé son podium en faisant mal rentrer Pérez, qui a été obligé de se bagarrer de manière assez conséquente pour remonter. Bref, c'était très intéressant à suivre. C'est loin d'être la meilleure course de la saison, mais il
Oui.
fut des années où on aurait bien aimé avoir une course comme celle-là. Bref, 7
C'est
sur
vrai.
10.
Non, non, mais c'est vrai, il faut le souligner. Alors, même note que toi, en stratégie, je pense vraiment que ça vaut une très très bonne note. Tu as utilisé tous les bons arguments, donc je vais pas répéter. Je mets un demi-point en moins pour le spectacle.
Parce que t'aimes
Sans
pas
doute parce que je
Alonso,
suis.
avoue-le.
Si, si, mais je suis juste un peu plus objectif sur l'ensemble de cette course qui
Attention, hein.
mérite bien un 3. Parce que vraiment, je boucle la boucle et je redis ce que j'ai dit en introduction, mais moi je m'attendais franchement à un truc plus chiant, on peut le dire comme ça. Et donc, je suis plutôt content. Ça fait quand même un bon 6,5. Plus ton 7, Damien.
6,75 sur 10. Je ne vous dis pas ce que ça fait sur la moyenne de la saison, mais ça la rehausse un petit peu. Mystère, évidemment, pour la suite. Et on va voir, on a donc une nouvelle fois, on va continuer après avec les prochains Grands Prix. On plonge à moitié dans l'inconnu, on plonge dans l'inconnu lors du prochain Grand Prix et un tout petit peu dans l'inconnu pour Abu Dhabi avec tous les changements qui ont été effectués. Mais on y reviendra évidemment en temps et en heure. Les classements, Olivier, Max Verstappen toujours en tête, 351,5 contre 343,5 pour Lewis. Hamilton, 8 points d'écart entre les deux. Donc, Verstappen ne peut pas se contenter de rester deuxième jusqu'à la fin de la saison si Hamilton gagne toutes les courses.
Ah oui, non, là, clairement, c'est plus possible.
Et oui, donc c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu plus se bagarrer du côté de Red Bull, tant mieux d'ailleurs.
Autrement dit, Damien, il ne peut pas faire une Rosberg 2016, ce n'est pas possible.
Ni une Alonso 2005.
Oui, on est taquin.
Il faut parler de Fernando Alonso dans tous les cas. Bottas toujours 3ème, Perez remonte sur le pilote finlandais. Oui. Norris est en train d'être rattrapé par les Ferrari. Leclerc a un point. Sainz a. J'ai pas envie de faire le calcul, qui est pas loin. Ricciardo, l'écart est creusé. Gasly ne marque pas de points. Alonso, bon, dans un no man's land tout seul. Ocon en 2ème partie qui domine. En 11e position, Vettel et Stroll, ça se rapproche un peu entre les deux pilotes Aston Martin, donc sur une saison assez équivalente, même si certains marquent plus de points que d'autres, mais l'autre marque plus souvent, enfin bref, c'est comme ça. Et après, derrière, ça ne change pas avec Tsunoda, Russell, Raikkonen avec 10 points, bravo à lui, et toujours Nikita Mazepin en dernière position.
Côté constructeur, Damien, eh bien évidemment la lutte fait rage et c'est chaud, c'est très 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 chaud entre Mercedes et Red Bull, 5 points d'écart. Avec deux Grands Prix encore à disputer, autant vous dire que rien, alors là, absolument rien n'est fait. De ce côté-là, Ferrari est très loin, mais a priori désormais toute seule à la troisième place. Pour McLaren, c'est quasi mission impossible. McLaren sera donc, je le dis, puisque je suis fan de McLaren, quatrième de ce championnat. Alpine reprend du poil de la bête et là vraiment est très très bien parti pour la cinquième place. On a prévenu du danger, sait-on jamais, parce que le scénario Alpine pourrait arriver à AlphaTauri. Je ne le souhaite pas particulièrement à Alpine. Hein,
Damien, j'y crois moyen quand même. Hein.
Oui, ça va être compliqué. Disons qu'Alpine est en bonne voie pour la cinquième place du championnat. Et puis derrière, évidemment, Aston Williams, Alpha et As, ça ne devrait plus bouger. Est-ce que As marquera un point, Damien? Tu espères que non, puisque ton pronostic, évidemment, serait invalidé. Mais,
non, mais au-delà de ça,
on n'est pas à l'abri.
Même si pour eux, j'espère quand même que ce ne sera pas aussi pire que ça, mais c'est une saison catastrophique pour eux. Oui. Tellement catastrophique, d'ailleurs, qu'on avait souvent eu l'occasion de voir Mazepin faire des actions un petit peu dangereuses en piste. Mick Schumacher commence également à en faire aussi. Ils sont complètement aux fraises, tous les deux.
Oui. Avec une très mauvaise voiture.
Oui, oui, oui. De toute façon, enfin, vivement pour eux, la voiture 2022, puisque 2021... On sait que c'était la voiture de merde avec laquelle, excuse-moi le terme, mais je le dis, avec laquelle Grosjean et Magnussen ont fini la saison. Enfin, Fittipaldi et Magnussen, puisque Grosjean n'a pas terminé la saison 2020. Bref, vivement que ça passe à autre chose du côté de l'écurie américano-russe ou russo-américaine. Je sais pas trop comment...
On ne sait pas. On ne sait plus trop où on en est, hein, vraiment.
On espère pour eux, en tout cas, que ça se relèvera un petit peu pour l'an prochain et que ça puisse un peu plus se bagarrer quand même avec leurs opposants directs. Le grand jeu roue libre. Vous voyez, regarde, je vous montre depuis tout à l'heure ce beau t-shirt.
Beau.
J'en profite pour vous montrer un beau mug, le beau mug que vous avez vu au début de cette émission. Et oui, l'un des lots à gagner pour ce grand jeu. Olivier, pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, je conserve exactement mon pronostic du Grand Prix du Qatar, c'est-à-dire un podium Hamilton, Perez, Verstappen, une pole pour Lewis Hamilton, le meilleur tour à Bottas, Alonso qui va gagner le plus de place au premier tour et Tsunoda comme premier abandon.
Alors je change pas grand chose mais je change quand même, donc je garde mon podium avec peu importe l'ordre Hamilton, Perez et Verstappen sur la boîte comme on dit, Hamilton cette fois en pole, Bottas en meilleur tour, Leclerc meilleur au premier tour, le plus de dépassement donc, et le premier abandon pour Tsunoda.
Hommage à Mick, évidemment. Une formule blabla qui nous prononce Yuki Tsunoda toujours de la même façon. Évidemment, tu as été envoûté par.
Exactement, exactement.
Bon, je comprends tout à fait, Olivier. Évidemment, donc à tous, merci. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, les pouces en l'air, les abonnements, la cloche. On approche des 4000, on espère les 4000 avant la fin de la saison, s'il vous plaît.
Bah oui.
Extrêmement plaisir, bien entendu. Les partages, tout ça, enfin bon, après, vous connaissez un peu la chanson. Merci Olivier pour ce bien beau bilan de ce Grand Prix du Qatar, qui
Oui.
finalement se sera quand même bien passé ce Grand Prix. Pourquoi pas?
Évidemment, merci à toi Damien, merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc l'antépénultième bilan de Grand Prix de cette saison 2021. Il fallait la placer.
Bien sûr.
C'est beau. Il nous en reste deux et les deux seront, à mon avis, très très chauds, très importants. Donc on a hâte d'y être.
Bien évidemment, on se retrouve donc dans 15 jours pour le bilan du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le Grand Prix donc qui va se disputer sur le circuit de Jeddah, donc on va totalement découvrir. Et autant Lozaï, on avait des comparatifs qu'on pouvait faire avec la moto, autant là, c'est une découverte totale. Mais d'ici là,
oui.
Mais d'ici là, à moins qu'il y ait une actualité particulière et qu'il puisse y avoir d'autres choses, vous allez avoir un quelque chose qui donc s'est tourné depuis quelque temps déjà, mais enfin on va vous le sortir. On espère que ça va énormément vous plaire. C'est une vidéo événement, quand même, sur la chaîne.
Oui, on peut le dire. On peut le dire. La première de peut-être une belle série.
En effet.
On y travaille.
Bien, évidemment, un peu de spoiler. Vous verrez. On table sur du jeudi-vendredi. Allez, comme ça, je suis carrément complet. Et vous verrez à ce moment-là. Merci, Olivier. Merci à tous. On se retrouve très vite, en tout cas. À bientôt. Ciao.